Oui, loué soit le Seigneur notre Dieu. La fin sera couronnée, la fin. Et heureux celui qui persévère jusqu'à la fin. Nous avons des salutations que nous avons reçues de la Finlande, des salutations de l'Autriche. Le frère Wagner a écrit et nous avons entendu des salutations de Dublin, des salutations des différents pays, de la Danemark, des salutations de partout, aussi par des appels. Nous nous réjouissons de tout notre cœur, comme le frère Schmitt déjà l'a mentionné, que nous avons la possibilité d'atteindre le monde entier et de partager la merveilleuse parole de Dieu avec l'humanité encore une fois. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Nous sommes arrivés dans le dernier mois de l'année et nous regardons en arrière. Je regarde en arrière à tous les différents voyages par beaucoup, beaucoup de pays. En janvier, cela a commencé et Dieu voulant, et au deuxième week-end maintenant, en décembre, ce sera Palermo en Italie. Le troisième week-end, ce sera la Roumanie et la Serbie. Dans le quatrième week-end, ce sera Zurich. Et le cinquième week-end, ce sera Krefeld. Et ensuite, le premier week-end en janvier, ce sera de nouveau ici avec vous tous, de loin et de près. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Il conduira toutes choses de manière merveilleuse. Nous connaissons, nous ne pouvons pas arrêter le déroulement de l'histoire. Au contraire, nous nous réjouissons de ce que aussi dans le domaine naturel, politique et dans le domaine religieux, toutes choses prennent forme et nous avons compris le 21 décembre. Il n'y aura plus de contrôle de frontières. Alors, on peut du haut, du nord, Estland, Lettland, Litauen, jusqu'à Barcelone, aller en voiture ou bien en avion, il n'y aura plus de contrôle de frontières. Tout est en train de s'ordonner de manière biblique. Le dernier empire est en train d'apparaître devant nos yeux. Le dollar et les États-Unis perdent leur valeur et leur réputation. L'euro fait toujours plus que gagner en valeur et c'est l'Europe qui va dominer le monde entier. Tout est en train de prendre son cours, tout a sa justification dans la parole de Dieu prédit à l'avance et c'est ainsi que cela s'accomplit. Même si cela nous attriste profondément, nous avons entendu dans la parole d'introduction, n'est-ce pas? Il a créé toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Et Genèse 1, au verset 1, commence, n'est-ce pas, avec ce mot. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, dans l'année 1851, cela est arrivé que la bien-aimée fille d'un Charles Darwin mourut de tuberculose et cet homme a perdu sa foi et il est devenu la merci de l'adversaire et il a changé ses pensées. Et en 1859, il a donc inventé sa thèse et l'a publiée de l'évolution. Et quand nous pensons que justement avec une pluralité dominante au Parlement à Strasbourg, il a été voté que l'enseignement biblique, l'exposé biblique de la création n'a pas le droit d'être enseigné aux enfants dans les écoles, mais plutôt la théorie de l'évolution de Darwin. Cela nous occupe nos pensées. C'est incompréhensible. L'incrédulité, la chute et l'apostasie prennent forme toujours plus devant nous et peut-être encore ce domaine à mentionner. Le couple et la famille n'est plus ce que cela a été et devrait être. Il y a des couples du même sexe qui reçoivent le même statut. L'ordre de la création est jeté à la poubelle et le désordre que l'adversaire a établi est salué et souhaité la bienvenue, mais est reçu. Mais c'est comme ça que l'histoire prend son cours et l'espoir pour ce monde n'existe plus. C'est seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, que nous avons une espérance vivante. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a appelés à sortir et que nous avons la grâce de croire de tout notre cœur, de croire comme l'a dit les Écritures. Peut-être encore la chose suivante concernant le voyage d'Israël, Dieu voulant, et si le Seigneur n'est pas encore revenu, du 5 au 15 mai, la prochaine année, il y a encore quelques places libres. Celui qui veut venir, qu'il puisse encore en décembre s'enregistrer. Encore en décembre s'enregistrer. Bien, mes frères et sœurs, nous regardons toujours dans la parole et nous voyons les promesses, nous voyons ce qui a été annoncé à l'avance, nous voyons aussi l'accomplissement de ces choses dans le peuple d'Israël, aussi dans l'Église et aussi dans l'Église épouse. Et nous sommes simplement reconnaissants pour l'orientation, je voulais justement dire, pour la sainte orientation, pour l'orientation sans mélange et sans falsification, que Dieu, dans sa parole et par sa parole, par sa grâce, nous a accordé. Pas de propres opinions, pas d'interprétations, mais la sainte et précieuse parole dans sa signification, révélée par la grâce de Dieu. Que ce soit, que cela concerne le ministère de frère Branham, ou alors ce qu'il a enseigné et reçu, révélé de Dieu, rien ne nous fatigue et ne nous pose des problèmes. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, revoir tout dans les Saintes Écritures. Et même si frère Branham, 8 fois, s'est référé à Apocalypse 10, verset 7, alors nous avons à mettre cela à sa place dans la Bible, sans se fatiguer, sans s'efforcer. Je voudrais vous lire, vous donner quelques versets bibliques pour vous aider, particulièrement tous nos frères qui n'ont pas encore foulé le sol de la révélation et qui s'attachent à la lettre et à leur compréhension humaine, sans que cela soit révélé pour eux, par le Saint-Esprit, et être conduit dans toute la vérité, dans les différents contextes. Exode, chapitre 4, versets 22 et 23. Israël est mon fils, mon premier-né. Osée, chapitre 11, verset 1. Osée, chapitre 11, verset 1.
Aus Ägypten habe ich meinen Sohn.
Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Matthieu 2, versets 14 et 15. Nous pouvons le lire. Matthieu, chapitre 2, versets
14
et 15. Verset 15, il lit la deuxième partie. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Jérémie 31, verset 6 jusqu'à 9. Jérémie 31, du verset 6 à 9.
Ephraim ist mein erstgeborener Sohn.
Ephraim est mon fils. Deutéronome 14, verset 1. 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. 2 Samuel 7, verset 14. Et 1 Chronique 17, verset 13. 1 Chronique 17, verset 13. Je lui serai fils et il me sera fils et je lui serai père et il me sera fils. Cela est répété dans Hébreux 1 au verset 5. Et ensuite, le rapport du Fils de Dieu à tous les fils et les filles de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 et 18. Nous venons d'entendre dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 17 et 18. Au singulier, du singulier, Dieu en a fait un pluriel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 et 18.
Darum geht aus ihrer Mitte hinweg.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Maintenant, suis le texte de 2 Samuel 7 au verset 14. Maintenant, suis le pluriel de ce texte qui est écrit au singulier. Il est écrit là-bas dans Samuel, je lui serai, mais ici au pluriel, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est permis. D'abord le Fils de Dieu. Tu es mon fils, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, ceux qui sont appelés à sortir, les élus, sont adressés, sont concernés. Et le singulier concernant le Fils de Dieu est rapporté au pluriel concernant les fils et les filles de Dieu. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est merveilleux, ce n'est pas une contradiction, c'est seulement la révélation de tout ce qui a été accompli par le Fils de Dieu pour les fils et les filles. C'est par lui, le Fils de Dieu, que nous avons reçu la position de fils. Galates 4, à partir de verset 4. Quand le temps fut accompli et Paul était justifié, avait le droit de faire de ce singulier un pluriel, et cela pour montrer que ici s'accomplit le sens de l'œuvre, la signification de l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. De la même manière, tel que nous l'avons lu, tu es mon fils bien-aimé. Je t'ai appelé de l'Égypte. Et ensuite, de nouveau, dans le prophète Osée, d'Égypte. Et ensuite, Joseph doit quitter l'Égypte, fuir de les Juifs, seulement pour que cette parole trouve son accomplissement, qui avait été prononcée de manière prophétique, mais maintenant accomplie réellement de l'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir. Mais l'une, la parole n'a pas annulé l'autre. Une parole n'a pas annulé l'autre, non. Mais tout est écrit de manière correcte et dans sa différente place. L'appel à sortir du peuple d'Israël, de l'Égypte. Tu es mon premier-né. L'appel à sortir du Fils de Dieu, du premier-né entre plusieurs frères. À lui, il fallait que des prophéties bibliques s'accomplissent. Cela va ensemble. Mais cette parole est ceci et l'autre parole est autre chose. Ici Israël, ici le Fils de Dieu. Et pour finir, tous les fils et les filles de Dieu, comme étant appelés à sortir pour former une église bien disposée à rencontrer le Seigneur dans les airs en tant que fils et filles de Dieu, établis dans la position de fils et de fille, dans l'adoption. C'est la même chose avec l'Apocalypse, le chapitre 10. Et celui qui seulement dans le moindre des choses serait intéressé et à être enseigné par Dieu, il n'a seulement besoin de regarder dans les Saintes Écritures. Et il a seulement besoin, s'il veut, de lire Colossiens 2, et ensuite de faire une comparaison avec Apocalypse, le chapitre 10. Lisons d'abord Apocalypse 10 et constatons que ici, il est parlé du mystère de Dieu au singulier. Apocalypse, chapitre 10, à partir du verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu au singulier s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Question. Qu'est-ce que c'est que le mystère de Dieu qui ici s'accomplira? Quand s'accomplirait? Lisons dans Colossiens pour ici avoir la réponse. Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, d'encouragement, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Il y a beaucoup de mystères. Le mystère du Christ et l'Église. Le mystère avec Israël et l'Église. Dans Romains, à partir du verset 9 jusqu'au chapitre 11, ce mystère entre Israël et l'Église est exposé dans Romains 9 jusqu'à Romains 11. Mais ici, il est parlé du mystère de Dieu au singulier dans Colossiens 2. Au verset 3, nous avons la réponse. Personne n'a besoin encore de la donner. Elle est déjà dans la parole de Dieu. Il faut aller seulement de verset en verset. Ici, lisons encore le verset 2 et ensuite le verset 3. Relisons le verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient après qu'ils soient unis dans l'amour. Est-ce que cela est ainsi déjà avec nous? Est-ce que nous sommes unis dans l'amour de Dieu? Est-ce que nous marchons dans le chemin qui va nous permettre, est-ce que nous sommes dans la position qui va nous permettre d'expérimenter ce que nous lisons maintenant, c'est-à-dire être enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Une compréhension pleine, donc parfaite, entière, pour connaître, être enrichi d'une parfaite intelligence, d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et ensuite être introduit dans ce mystère. jusqu'à la connaissance du mystère de Dieu. Mystère, verset 3, dans lequel, donc mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce mystère de Dieu est Christ. Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit, prêché aux nations, au peuple, reçu dans la foi au ciel, monté au ciel. Où est-ce qu'il y a un problème là? Frère Branham, en tant que le dernier et septième messager de l'Église, par le ministère duquel tous les mystères de la parole et du royaume de Dieu ont été révélés, il avait le droit de faire d'un singulier un pluriel et de se référer d'Apocalypse 10 au verset 7. Et il a toujours fait référence à ce verset au pluriel en parlant des mystères au pluriel. Seulement, quand il lisait le verset biblique, le singulier était en table de sa bouche. Mais quand il le mentionnait lui-même, c'était toujours au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il avait été mandaté et envoyé par Dieu pour que par le dernier message, réellement tout ce que Dieu nous a préparé soit révélé. Tous les mystères de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Où est-ce qu'il y a un problème là? Où est-ce qu'il y a un problème avec Exode 4 d'Égypte, tu es mon fils bien-aimé, tu es mon premier-né. Où est le problème d'Égypte? J'ai appelé mon fils à sortir. Ici, ça concerne le peuple d'Israël. Ici, ça concerne le Fils de Dieu. Et ensuite, dans 2 Corinthiens 6, ça concerne nous en tant que frères et sœurs. Promener entre plusieurs frères, nous pouvons être inclus dans cette parole, dans ce grand dessein du salut de notre Dieu, pour que notre Seigneur puisse dire, me voici, et tout ce que Dieu m'a donné, Hébreux 2, verset 12, pour que ici puisse s'accomplir, je vais à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu, pour que puisse s'accomplir, il n'avait pas honte de nous appeler ses frères. Il est devenu semblable à nous pour que nous puissions devenir semblables à lui. Le plan de la rédemption est un plan merveilleux que Dieu a avec l'humanité. Heureux tous ceux qui croient au Seigneur, car c'est seulement dans la foi que nous pouvons réellement entrer dans le lieu très saint. Et là aussi, on doit faire attention. Celui qui va dans Nombre chapitre 16, il constatera une fois que même quelqu'un qui n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu très saint avait été appelé. Quelqu'un qui était contre Moïse, quelqu'un qui s'était révolté, rébellé, c'était une révolte. On peut peut-être le lire dans Nombre 4 et 16, pour que tout puisse savoir. Je ne voulais même pas venir à parler de cela, mais ça vient comme ça maintenant. Mais on doit aussi, quand on entre même devant la tente d'assignation et qu'on a foulé un sol saint, on doit le faire dans la crainte, pas avec des propres esprits ou bien intentions, ou bien encore moins avec des arrière-pensées, et encore moins contre l'ordre divin qui, déjà autrefois par Moïse et par Aaron, avait été établi dans l'Église et avait sa valeur. Dans Nombre, le chapitre 16, je lis seulement le verset 19. Oui. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse, une assemblée contre quelqu'un, contre Moïse et Aaron. Oui, représentez-vous cela devant les yeux. Nombre 16, verset 19. Ici, il y a Dathan, Abiram et tous ces gens au lieu de venir devant la tente d'assignation, dans l'humilité, pour que Dieu, par son serviteur qu'il a appelé, puisse lui-même Dieu parler avec eux? Non. Ils se rassemblent, ils convoquent toute une assemblée, mais contre le serviteur de Dieu, contre l'ordre que Dieu établit. Et tous, nous savons ce qui s'est passé ensuite. Lisons le verset 19, encore une fois. Et Corée convoqua toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, contre Moïse et Aaron. Et alors là, toute l'assemblée, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Ensuite, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Et ensuite, le jugement est tombé sur ceux qui s'étaient rassemblés contre le dessein du salut de Dieu, contre ce que Dieu faisait dans leur temps. Ils ont dit oui, mais nous aussi nous sommes là. Nous avons aussi un ministère. Nous pouvons aussi prêcher. Nous sommes aussi saints. Toute l'église est sainte. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais si quand Dieu, lui, il appelle quelqu'un, alors quoi? Alors, nous avons à prêter l'oreille à ce que cet homme a à dire de la part de Dieu et nous avons à respecter ça. Si, par exemple, frère Branham, le 7 mai, en 1946, il lui a été dit à frère Branham, il lui a été dit, tel que à Moïse, il a été donné deux signes. C'est ainsi que deux signes te seront donnés. Nous savons ce que Dieu a dit. Nous connaissons le mandat, l'appel de frère Branham, et cela en relation avec la promesse qui était écrite et qui est encore écrite dans l'Ancien Testament et donnée par Dieu lui-même dans Malachie, les derniers versets, de notre Seigneur lui-même confirmé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17 et dans Marc 9 au verset 12. Qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Et là aussi, comme dans les paroles de hier soir, dans 2 Jean, là, réellement, il faut qu'il soit écrit dans la forme future. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ revenant en chair. Les deux choses ont leur place, le passé et le futur. Mais même les traducteurs ont parfois pas reconnu la pensée de Dieu. Et ils ont traduit quelque chose comme ça, tel que eux-mêmes ils l'avaient compris. Mais cela est vraiment plus de 80 fois, il y a de tels problèmes de traduction dans la Bible. On peut tout énumérer. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit, lui, dans toute la vérité. Et nous remarquons ici de quoi il s'agit. Par exemple, dans 1 Jean 4, il s'agit que tous doivent confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ça, c'est notre confession. De la même manière qu'il reviendra, mais en tant que le même, hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et cela avec son retour. Ce sera une résurrection corporelle de ceux qui se sont endormis en Christ et la transformation corporelle de ceux qui sont restés vivants en Christ. Puisque son retour est relié à ces deux événements, c'est pour, et notre enlèvement commun dans les nuées, comme c'est écrit, ça, c'est la sainte parole de Dieu. C'est peut-être raison qu'il revient corporellement. Heureux ceux qui respectent et dispensent sous la conduite du Saint-Esprit la parole de la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, que chaque Écriture, chaque verset biblique soit conservé dans sa signification et dans son ordre divin, d'une manière que tous, de la même manière, soient enseignés par le Saint-Esprit, par la même parole de Dieu et conduits dans toute la vérité. Nous croyons à l'ouverture des sept sceaux. Je suis convaincu, je ne dois pas à chaque fois le dire, mais j'étais avec frère Branham seulement quelques semaines avant cet événement et il m'a dit qu'il doit déménager à Tucson en raison d'une vision que Dieu lui avait montrée. Je ne suis pas comme ça, je ne sais pas comme ça sauter dans quelque chose, quelque part, et je ne me suis pas comme ça retrouvé dans quelque chose comme ça, subitement, non. Durant toutes ces différentes années, j'ai suivi le ministère de frère Branham, et je sais de quoi je parle, et je n'ai pas de difficulté à constater la liaison, le rapport, parfait avec le message et la Bible avec le message et à transmettre les deux dans l'équilibre, à transmettre cela dans l'équilibre comme une seule chose. Et cela nous diffère de tous les autres qui placent la personne du prophète au milieu de leur prédication. Et pour eux, il s'agit seulement, on devrait presque pas le dire, mais cela est devenu le culte d'un homme, le culte. Alors pour eux, sa tombe ses vestes et ses objets ont une grande signification. Ses vestes sont découpées et distribuées à chacun, et chacun veut avoir un morceau. Non, non. Alors là, on n'a même pas besoin d'aller à l'église catholique. On peut même rester là où on est. On est déjà dans l'église catholique. Non. Encore une fois, non. Le plus grand prophète avait seulement le devoir de montrer le chemin de l'Éternel et de préparer un chemin pour Dieu. Et aucun prophète rend témoignage pour lui-même, mais le ministère et Dieu lui-même rend témoignage de la parole qu'il porte. Et tel que nous l'avons dit déjà hier, ce n'est pas les prophètes qui auraient conduit les hommes à Dieu comme confirmation, mais c'est Dieu qui, dans les jours du prophète Élie, par exemple, a ramené les cœurs des hommes à lui. C'est lui qui l'a fait. Élie voulait même que le peuple puisse reconnaître ça, que c'est Dieu qui ramène leur cœur. Lui, il a fait que faire, selon la parole de Dieu, ce que Dieu lui ordonnait. Et pour lui, le cas était terminé. Mais le reste, c'est Dieu qui devait le faire par sa présence, par cette confirmation du haut des cieux, parmi son peuple. Et il a ramené leur cœur à lui. De la même manière, c'est encore aujourd'hui, ce n'est pas frère Branham, ou bien frère Paul, ou bien frère Paul, ou bien frère Moïse, ou bien frère Moïse. Tous ces hommes de Dieu, dans leur époque, ils ont pour leur part, par la prédication et leur ministère, ils ont contribué à ce que aujourd'hui, nous pouvons avoir toute la parole, le plein évangile et la possibilité de revenir à l'original, au commencement, par la grâce de Dieu. Mais Paul pose la question dans son épître aux Corinthiens. Qui est Apollos? Qui est Paul? Qui est Pierre? Qui sommes-nous? Qui sont-ils? Ce sont que des serviteurs de Dieu. Et Dieu, lui, il confirme sa parole. Qu'est-ce que Paul continue à dire? L'un a planté, l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui a accordé la croissance par sa grâce. La même chose a lieu maintenant encore. Est-ce que un laboureur, frère Müller, tu connais aussi bien, moi aussi d'avant, est-ce qu'un laboureur peut faire quelque chose pour la croissance du blé qu'il a semé? Est-ce qu'il peut faire? Non, non, le laboureur fait que semer. Il fait que semer. Et ensuite, il peut aller se coucher. Alors il peut aller se coucher sans souci. Il ne fait que semer. Pour le reste, c'est Dieu du ciel qui prend soin. Et le Dieu du ciel accorde la pluie pour que le blé puisse mourir, pour que la vie, le germe de vie de ce blé puisse être visible à l'extérieur. Et pour cela, Dieu utilise le soleil. Et c'est par la puissance, par la chaleur, que la vie sort de cette semence. Nous n'avons rien eu à faire, nous n'avons fait que semer. Tout, c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui le fait. Nous faisons que semer. Le Seigneur accorde la pluie. Le Seigneur accorde le soleil, la chaleur. Il vivifie. Et il est écrit même qu'il veille sur sa parole. Et si nous portons la vraie parole dans notre cœur, il veille sur nous à cause de sa parole. Et sa parole à nous pour qu'elle puisse produire de son fruit et être confirmée. Si ici, nous allons dans 2 Pierre, au premier chapitre et que nous lisons, verset 17, 18 et 19, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 17, 18. Oui, on devrait lire jusqu'à 19, ce sont les versets connus de tous. De Pierre 1, verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je me réjouis depuis quelques temps, à chaque fois, d'une manière nouvelle, quand je lis cela ici. Le témoignage de Pierre. Il était témoin oculaire. Et cela ne suffisait pas. Même d'avoir entendu en direct et d'avoir entendu et d'avoir été là, dans l'endroit et d'avoir vu, ça ne suffit pas. Lisez au verset 18. Il dit, et nous avons entendu, c'est vrai, cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. Alléluia. Loué et glorifié soit notre Dieu. Nous étions présents. Nous sommes, ils disent qu'ils sont allés avec lui sur la montagne. Nous avons vu de nos yeux Moïse et Élie et Pierre. Aurait même pu dire ici. J'étais même prêt à construire 3 tentes, une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Et ensuite, cette nuit et cette lumière est descendue, la gloire surnaturelle de Dieu. Et ensuite, la voix a retenti. Et en langue allemande, nous avons toujours la désignation avec cette expression retentie. Cela n'est pas aussi écrit dans toutes les autres traductions. Il est écrit seulement, et entendu cette voix, mais cette voix qui retentit? Cela n'existe pas dans toutes les traductions. Je lis ici, et nous avons entendu cette voix retentissant du ciel, donc venant du ciel, en retentissant, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et ensuite, le passage, l'expérience merveilleuse, d'accord. Mais il ne reste pas comme ça sur cela à édifier. Mais maintenant, il fait un passage dans la parole prophétique. Alléluia. Et il dit sur verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle que nous possédons, que nous avons, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Les plus grandes expériences avec Dieu que nous pourrions avoir eues, les choses les plus merveilleuses sont bien. Nous remercions Dieu pour cela. Mais le passage de revenir à la parole, de revenir dans la prophétie biblique et de par les Écritures, d'expérimenter. Parce que l'orientation que nous devons prendre ne vient pas par nos expériences, elle vient par la parole. C'est peut-être raison que nous devons revenir à la parole. Et il est écrit ici, et nous tenons pour d'autant plus certaines en allemand, et nous possédons, et nous tenons pour de plus certaine la parole prophétique que nous possédons. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Si Paul était ici ce matin, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Si Pierre était ici ce matin, si les apôtres étaient ici ce matin? Déjà autrefois, notre Seigneur a dit, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et entendre, expérimenter ce que vous expérimentez. Oh, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Tous les croyants ont, dans ces 2000 années, ils ont désiré voir l'accomplissement de ce que Paul a écrit, de pouvoir voir ce qui s'accomplirait dans la fin des temps. Et nous sommes ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, la génération bénie, avec des cœurs ouverts, avec des yeux ouverts, des yeux oints, des oreilles ointes, selon la parole de l'Écriture, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, selon la parole de l'Écriture, Apocalypse 3, je te conseille d'acheter de moi de l'onction pour d'huile pour les yeux, pour que tu puisses voir. Bien-aimés frères et sœurs, sans révélation par le Saint-Esprit, nous ne voyons rien. Il faut que de la part de Dieu lui-même, cela nous soit révélé personnellement. Et c'est par la parole, que nous serons enseignés et instruits par Dieu et par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que l'enseignement, aussi concernant la prophétie, par la grâce de Dieu, dans son accomplissement, dans la manière la plus exacte, nous sera montré. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel, il est écrit, scelle le livre jusqu'à la fin des temps, Daniel 12. Et ensuite, beaucoup sonderont. Et ensuite, il est écrit que la compréhension va croître. La compréhension divine pour l'accomplissement des prophéties bibliques vient toujours en relation et dans l'époque quand les prophéties bibliques s'accomplissent. C'est à ce moment-là seulement que nous pouvons avoir la compréhension pour cette prophétie, parce qu'elle est en train de s'accomplir. Et ce n'était pas possible autrement dans les autres passés, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais maintenant, nous sommes conduits par Dieu dans sa parole, et nous voyons réellement comment est-ce que tout s'accomplit, tout trouve sa place, aussi en ce qui concerne Israël, dans Israël et dans Jérusalem. Et je vous dis très sincèrement, si déjà maintenant il est parlé de ce que le contrat de paix jusqu'à la fin de la dernière année doit être achevé et fait, le contrat de paix. Mais bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Matthieu que celui qui lit, faites attention, Matthieu 24, verset 15, quand vous verrez, que celui qui lit, fasse attention. Ce qui est écrit dans le prophète Daniel, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, que celui qui lit, il le voit en train de s'accomplir, qu'il fasse attention et qu'il observe les choses de la vue biblique. Et ensuite, nous entendons que dans les dernières négociations, le Vatican doit intervenir. Et là, il s'agira de la montagne, du temple de l'Éternel, de la maison de l'Éternel, jusqu'à aussi la montagne de Sion. Donc, il s'agira donc de cet endroit. Alors quoi? Alors là, ils disent qu'il faut que ce soit le Vatican qui intervienne. Et là, on a encore besoin d'ouvrir ce livre, le même livre. On a encore besoin de lire le même livre, la Bible, et de constater ce qui est écrit ici et promis par Dieu. Je voudrais encore lire un verset important dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, car il s'agit, n'est-ce pas, toujours encore de ce sujet de l'enlèvement. Et ici, dans Hébreux, au chapitre 11, nous avons, au verset 5, l'histoire, l'expérience de l'enlèvement d'Enoch. Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, qu'il possédait le bon plaisir de Dieu, l'affection de Dieu. En allemand. Et ensuite, nous lisons tout de suite au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai plusieurs versets bibliques que j'ai cherchés et que j'ai trouvés qui parlent du bon plaisir de Dieu. En commençant avec Genèse 4, verset 4. Alors qu'Abel avait apporté un sacrifice qui était agréable à Dieu et que Dieu avait vu ce sacrifice et l'avait agréé. Ensuite, de tous les différents sacrifices apportés dans l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 1, verset 1.
« Wenn seine Opfergabe in einem Brandopfer bestehen soll,
j'espère que les traducteurs ne m'en veulent pas. Lévitique chapitre 1, verset 3. Si son offrande, je relis encore, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle, juste avant la deuxième partie, d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Je lis avant la dernière partie. Pour obtenir le bon plaisir de Dieu, pour être agréable à Dieu, pour obtenir sa faveur. Dans tout l'Ancien Testament, les sacrifices avec un seul objectif, une seule signification, la réconciliation, l'expiation, recevoir l'expiation et le pardon. Mais, pour aussi être agréable à Dieu et obtenir la faveur de Dieu, et que Dieu ne soit plus en colère, et qu'il n'ait plus besoin de rétribuer quelque chose, mais qu'avec bon plaisir, il puisse regarder au sacrifice et à celui qui apporte le sacrifice. Ensuite, Lévitique, chapitre 22, verset 29. Chapitre 22, Lévitique, chapitre 22, verset 29. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte, donc vous devez le sacrifier d'une manière que vous obteniez par le sacrifice la faveur de Dieu. Donc il s'agit toujours de ce que le bon plaisir de Dieu se repose sur les hommes, car Dieu agrée le sacrifice seulement s'il lui était agréable. Même ici, en comparaison à Lévitique 23, verset 16, le bon plaisir de celui qui habite dans le buisson ardent. Lévitique, le bon plaisir de Dieu qui se reposait sur Moïse. L'appel avait été prononcé, le mandat par la grâce de Dieu avait été accordé. Et ici, nous expérimentons que le bon plaisir de Dieu se reposait sur celui qu'il a appelé et qu'il a envoyé. Et ensuite, le bon plaisir de Dieu se reposait sur tous ceux qui apportaient le sacrifice sous l'ordre de l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Ici, nous avons le passage du sacrifice qui obtient la faveur de Dieu à l'homme lui-même qui apporte le sacrifice. Et maintenant, et l'obéissance vient dans le jeu. Pas seulement le sacrifice qui est apporté et la faveur de Dieu sur celui qui apporte le sacrifice. Mais maintenant, le passage à l'obéissance avait aussi, il dit ici, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et ensuite, suit ce passage. Voici l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je pourrais lire et encore une fois lire tous ces versets merveilleux concernant le bon plaisir de Dieu sur les individus et sur le peuple de Dieu. Et ensuite, il est constaté ici dans 1 Corinthiens, du chapitre 10, en regard à tous ceux qui étaient bénis de l'Ancien Testament, qui avaient été appelés à sortir et qui avaient été baptisés dans la mer et dans la nuée, qui ont bu du rocher. Et ensuite, il est écrit au verset 5, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. » Nous devons obligatoirement aller dans Ésaïe 42, là où il est parlé du serviteur de Dieu, du serviteur de l'Éternel, de notre Sauveur et Rédempteur. Ésaïe 42, où il est dit que le bon plaisir de Dieu se reposait sur lui et qu'il annoncera la justice selon la vérité et il sera victorieux en achevant l'œuvre. Sur le Fils de Dieu se reposait le bon plaisir de Dieu. Les deux fois. Lors du baptême, dans Matthieu 3, verset 17, et ensuite, sur la montagne de transfiguration, Matthieu 17. Bien-aimés frères et sœurs, de parler de l'enlèvement, ça ne suffit pas. La question est la suivante. Est-ce que nous marchons avec Dieu? Et cela en accord avec sa parole et sa volonté. Car c'est seulement comme ça que le bon plaisir de Dieu réellement pourra se reposer sur nous. Et à cela appartient que l'Église soit libre de toutes les doctrines étrangères, les enseignements, les interprétations, de toutes les influences étrangères. Et qu'elle soit seulement sous l'influence de Dieu, dans l'esprit et la parole, pour que seulement ce que Dieu a dit et a promis réellement puisse avoir lieu. Et pour cela, justement, encore rapidement, des épîtres de Paul adressés à Timothée, seulement quelques versets. Dans 1 Timothée, le premier chapitre, nous lisons au verset
3.
1 Timothée 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul, en allemand, des doctrines étrangères, d'autres doctrines. Paul, un homme appelé par Dieu, était conscient de la responsabilité et il a remis cette responsabilité à son compatriote dans le ministère. De recommander à ceux qui apporte d'autres enseignements, de se tenir, de les stopper et de ne plus leur permettre de le faire dans l'Église. Car l'Église a le droit seulement d'entendre la pure et le vrai enseignement des Saintes Écritures. Pas d'autres enseignements. Comme le Seigneur a dit, conserve-les, garde-les dans ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. C'est ta parole. Et c'est seulement dans la parole que nous pouvons être sanctifiés. Dans 1 Timothée 1, versets 5 et 6, le but de cette recommandation, c'est un amour. Ici, nous pourrions faire le pont à 2 Thessaloniciens 2, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Dieu leur a envoyé des puissances d'égarement. Bien-aimés frères et sœurs, je me pose la question et je vous pose la question à tous. Est-ce que le plein amour, le parfait amour de Dieu est en nous? L'amour pour la vérité, que l'amour pour la vérité parfaite de Dieu est en nous, pour Dieu et pour sa parole, dans les vérités divines liées. Dites Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, il n'y aura plus de place pour d'autres enseignements. Lisons encore au verset 5 et 6. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, d'une foi sans hypocrisie. Amen.
Oui.
Ensuite, le verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Malheureusement, ce n'était pas seulement le cas au commencement, encore maintenant dans notre temps. Il y en a qui, par des vains discours, des frères se sont égarés dans de vains discours. Ils ont quitté la parole de la vérité. Et parfois, c'est seulement des discours qu'ils ont apportés. Et ce n'est même pas une prédication allant d'écriture en écriture. Seulement un discours comme ça. Non. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. Peut-être verset 14 aussi. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 16. Ici, il est écrit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Auparavant, déjà dans la parole d'introduction, nous avons entendu, j'habiterai en eux, je marcherai par eux, en eux, par l'église, je vais continuer mon œuvre. Père, toi en moi et moi en eux. Ici, nous avons la continuation de l'œuvre de la rédemption avec Christ et l'église. Et Dieu a établi les différents ministères. Et le souhait de l'apôtre, c'était pour que tous ceux qui prennent part à la prédication puissent savoir comment est-ce qu'on doit se conduire dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas un club. L'église de Dieu est, comme il est écrit ici, l'appui et le pilier de la vérité. Et tout ce qui n'est pas vérité n'a pas sa place dans l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui ne va pas porter du désordre et des interprétations. Elle est porteuse de la parole de Dieu. Et elle est l'appui de la vérité. L'appui, la colonne de la vérité ne pourront pas être ébranlées car elle est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ensuite, verset 16, connu de tous, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu est manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Quel témoignage merveilleux. Dans le 4e chapitre, nous avons au verset 16, encore une fois, ces paroles, cet avertissement qui va dans le cœur. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et ça, c'est ce que nous voulons tous. Nous-mêmes, en tant que prédicateurs, nous voulons aussi être prêts lors du retour de Jésus-Christ. Pas seulement avoir prêché, et nous voulons que, aussi que tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu de notre bouche soient aussi prêts. Que tous, dans le monde entier, puissent le prendre dans leur cœur. Par cette prédication, l'appel à sortir a lieu. La préparation, toute l'orientation à prendre est montrée au peuple de Dieu, c'est-à-dire l'accord avec Dieu et sa sainte parole, pour que le bon plaisir de Dieu, par la grâce de Dieu, puisse se reposer sur nous. Comme dans l'Ancien Testament, les sacrifices devaient apporter la faveur, obtenir la faveur de Dieu. Mais c'est l'incrédulité qui a détruit tout, mais c'est seulement par l'obéissance qu'il était possible de la recevoir. C'est peut-être quand qu'il a parlé du Fils de Dieu. Il était obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Et c'est seulement si nous sommes crucifiés avec Christ et que notre propre volonté est placée dans la volonté de Dieu et que nous-mêmes, avec conviction, nous pouvons dire plus de propre volonté, plus de propre chemin. Il faut que notre volonté soit la volonté de Dieu, soit dans la volonté de Dieu. C'est comme ça que alors nous pourrons être prêts. Et bien, mes frères et sœurs, je voulais vous encourager. Ne soyez pas découragés et affligés, mais remerciez Dieu le Seigneur qui nous a visités, mais pas pour nous laisser comme ça au milieu du chemin, mais pour, par sa grâce, aller avec nous jusqu'à la perfection, jusqu'à l'achèvement, jusqu'à que nous passions de la foi à ce que nous avons cru, de la foi à la vue de ce que nous avons cru. Je suis convaincu, tel que Dieu a appelé Israël à sortir, tu es mon fils bien-aimé, mon premier-né, je t'ai fait sortir de l'Égypte. C'est ainsi que cela doit s'accomplir maintenant, que Dieu lui-même appelle à sortir et que du singulier, le pluriel peut être manifesté. Et vous serez fils et filles de Dieu. Et je serai votre père. Acceptez-vous cela. Acceptez cela par Dieu lui-même, de la part de Dieu. Ça, c'est le don de Dieu à tous les frères et les sœurs, à tous les fils et les filles de Dieu par sa grâce. Encore les versets du chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 13, jusqu'au verset 16. 1 Timothée 6, verset 13 jusqu'au verset 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, ça va faire 2000 années qui sont passées depuis l'époque. Et combien de fois nos frères, le frère Rousse, aussi le frère Schmitt, toujours de nouveau, ont insisté en disant qu'autrefois, la parole avait été adressée à eux, mais aujourd'hui, la même parole est adressée à nous. Alors, dites sincèrement, est-ce que cette parole était seulement adressée à Timothée? Est-ce qu'il vit encore aujourd'hui pour voir l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ? Non, il est déjà auprès du Seigneur. Mais nous sommes ici. Nous sommes encore ici. Et nous pouvons, comme il est dit ici, exécute l'ordre. Nous pouvons garder le commandement et vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Garder le commandement pour vivre sans tache, sans reproche devant l'Éternel. qui manifestera en son temps, verset 15, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité, verset 16, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On peut encore dire un amen à cela et encore un alléluia. Donc, avec la prédication, avec la vraie prédication, il y avait toujours un objectif qui était lié. C'est-à-dire que les vrais enfants de Dieu soient prêts, soient présents lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ainsi, nous sommes de nouveau dans ce plus grand mandat tel que Jean-Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une partie de l'histoire du salut dans ce temps. Nous sommes une partie et nous allons voir la perfection et l'achèvement de l'œuvre par la grâce de Dieu. Maintenant encore une parole adressée à tous ceux qui sont affligés et fatigués, adressée à tous ceux qui sont chargés, qui viennent dans une assemblée pour expérimenter Dieu, que ce soit une conversion, une délivrance, que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance de certaines chaînes ou bien même d'un droit que Satan peut avoir sur des hommes parce que il a le droit de visiter le péché jusqu'à la troisième génération. Dans des réunions où le ressuscité est présent, il faut que tout ait lieu, tout ce qui se passait autrefois, alors qu'il apparaissait et qu'il était dans une réunion sur terre. Les pécheurs ont reçu le pardon de leurs péchés. Ceux qui étaient malades ont été guéris. Ceux qui ont été liés et possédés du diable ont expérimenté leur délivrance et ils sont venus au Seigneur liés, mais ils sont repartis délivrés et ils ont rendu témoignage de ce que Dieu a fait. Hier soir et aujourd'hui, nous avons entendu deux témoignages merveilleux. Et je voudrais que tu puisses, bien-aimée sœur, qui est assise au deuxième rang, que tu te lèves. Ici, il y a une sœur qui était inguérissable, sans espérance. Et les médecins ne savaient pas ce qui devait être fait. Et voilà. Après, à l'occasion d'un ensevelissement dans la région où elle habite, seulement une prière pour elle et Dieu l'a guérie et notre bien-aimée sœur est ici aujourd'hui. Merci. L'autre témoignage est de la Finlande. Je ne sais pas si vous avez tous appris la belle-mère de notre bien-aimée Erwin Pacheco était malade du cancer et abandonnée par la médecine. Et voilà, elle est guérie. Par la puissance de Dieu, guérie. Jésus-Christ est le même. Et bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, s'il n'y a pas de maladie qui est pour la mort, il y a une maladie qui est pour la mort. Jusqu'à maintenant, tous les hommes, jusqu'à Enoch et Élie et Moïse, tous sont morts. Et une maladie a servi à ce qu'il puisse partir. Mais quand une maladie, et nous sommes convaincus que la maladie n'est pas pour la mort, et que nous sommes convaincus que la mort ne peut pas encore être. Alors, il faut que dans le plus profond de notre cœur, nous puissions résister à cette maladie. Contre cette maladie, nous devons la rejeter. Nous ne pouvons pas l'accepter et admettre que nous sommes malades. Non, nous ne devons jamais prononcer notre bouche que nous sommes malades. Nous devons dire, Seigneur, je ne pense pas que mon départ est encore arrivé. Je ne crois pas. Cette maladie ne peut pas servir à la mort, mais à ta gloire. Et vous allez voir ce qui va se passer. On doit avoir cette résistance intérieure. Ne pas simplement accepter la maladie, mais la refuser, la rejeter et être contre le péché, contre cette maladie. Ne jamais témoigner cette maladie, mais la refuser et dire, bien-aimé Seigneur, cela n'a pas de place dans mon corps ou en moi. Cela n'a pas sa place à moi, en moi, car tu as porté toutes les maladies et tu as portez toutes les douleurs. S'il vous plaît, ne soyez pas d'accord avec aucune maladie. Protestez de tout votre cœur contre cette maladie. Et dites, bien-aimé Seigneur, je crois ce que ta parole a dit. Et s'il vous plaît, écoutez encore ça, encore. Dans l'Ancien Testament, il y avait une promesse. Ésaïe 53. Mais dans le Nouveau Testament, l'accomplissement a eu lieu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, accordé à tous par sa grâce. On doit avoir la bonne disposition correcte. Et notre Seigneur a toujours posé la question, crois-tu que je peux le faire en toi? Crois-tu? Et la réponse a été toujours oui. Et ensuite, la guérison a eu lieu. Bien-aimés frères et sœurs, je suis aujourd'hui ici pour vous encourager de prendre Dieu au mot. Et tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une vraie conversion, que je puisse vous le mettre dans votre cœur, vous le dire à votre cœur. Il est encore écrit, et cela est encore vrai aujourd'hui, celui qui invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. N'attendez pas à de meilleurs temps. N'attendez pas à des meilleurs jours ou à une autre meilleure occasion. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'espère que ce n'est pas seulement la voix d'un prédicateur que nous avons entendu, mais la voix de celui qui parle avec nous du haut des cieux et qui nous propose ça, son don de grâce et nous le montre. Et ensuite, tous ceux qui ressentent qu'ils ne sont pas libres, ils ne sont pas délivrés, ils ne sont pas délivrés et que l'adversaire a quelque part encore un certain droit sur leur vie. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure de la délivrance divine est là. L'heure où Dieu confirme sa parole parmi nous en tous ceux qui sont concernés. Salut, délivrance, guérison, quoi que ce soit, partout où vous pourriez être. Nous ne le disons pas seulement, cela est vrai. Jésus-Christ est le victorieux de Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent et il nous a accompli par sa grâce la rédemption. La rédemption par son sang saint qui sur la croix à Golgotha a coulé. Et nous avons un accès libre à Dieu et à toutes les bénédictions que le Dieu Tout-Puissant nous a accordées en Jésus-Christ par sa grâce. Aujourd'hui, nous allons ensemble prier et ensemble croire et Dieu ensemble expérimenter. Avez-vous compris la parole? Avez-vous vu comment est-ce qu'une parole Par exemple, j'ai fait sortir mon, j'ai appelé mon fils d'Égypte qui s'est accompli là et qui s'est accompli là aussi en même temps, d'une manière harmonieuse en ce qui concerne le peuple d'Israël, en ce qui concerne le fils de Dieu, en ce qui concerne les fils et les filles au pluriel. Avez-vous compris que frère Branham, avec tout le droit, pouvait se référer à Apocalypse 10, verset 7, sans toucher l'accomplissement de ce verset, c'est-à-dire que son ministère s'accomplissent et que par son ministère, tous les mystères s'accomplissent. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'harmonie divine. Bien-aimés frères et sœurs, je pourrais sauter de joie, je pourrais exploser de louange devant Dieu pour le grand privilège qu'il nous a accordé dans sa présence directe, dans son nom, en son nom, d'être rassemblés et écouter sa parole, croire et la recevoir révélée. Et maintenant, que le Dieu Tout-Puissant puisse manifester parmi nous sa puissance par délivrance, par le salut de l'âme, par la guérison, par la rédemption. Selon notre foi, cela va s'accomplir. Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous levons pour la prière. Chantons tel que je suis, sans rien de moi. J'entends encore une fois. Lisons avant la prière Luc chapitre 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia, Amen. Il a apparu au bon moment et il a lu le verset adéquat. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. À cela, le Dieu fidèle, encore aujourd'hui, nous a rassemblés, nous a envoyé la même parole du prophète Ésaïe, la même parole de Luc 4, s'accomplit aujourd'hui, est valable aujourd'hui ici pour nous. Le Seigneur nous a envoyés pour prêcher l'évangile du crucifié et manifester et prêcher la puissance de sa résurrection, et tous ceux qui croient, qui puissent expérimenter la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous voulons ensemble prier, ensemble croire et ensemble l'expérimenter. Combien ont une requête particulière? Laissez-moi vos mains. Oui, il y en a réellement toujours, toujours très beaucoup, oui. Auprès du Seigneur, il n'y a pas d'importance qu'il y ait beaucoup de mains que je ne vous pas. Au moins, nous voulons croire de tout notre cœur. Dans sa meurtrissure, je suis déjà racheté, délivré et guéri, sauvé, réconcilié avec Dieu. Le plein salut de Dieu nous a déjà été accordé. Nous avons entendu le salut du plein, l'évangile, le message du plein salut de Dieu. À la fin du temps de la grâce, nous l'avons entendu prêcher. Et tous ceux qui croient Dieu aujourd'hui expérimenteront Dieu. Bien-aimé Seigneur, en cet endroit, nous avons entendu ta parole. En cet endroit, nous croyons ta parole maintenant. Et nous te remercions pour l'accomplissement de ta parole à nous, pour le salut de l'âme, pour la délivrance de l'esprit et pour la guérison du corps. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur. Nous te remercions pour la révélation de ta parole et de ta volonté. Nous te remercions pour tous les différents contextes que tu as manifestés. Alléluia, bien-aimé Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu habites parmi nous. Tu marches parmi nous. Tu parles avec nous. Alléluia, alléluia. Alléluia. Loué, gloire, honneur, honneur, gloire. Sois Dieu, sois à Dieu dans les yeux. Alléluia. Alléluia. Oh, cela se passe. Cela se passe. De grandes choses. De grandes choses se passent. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Recevez selon vos prières. Recevez maintenant selon vos prières. Recevez selon ce que vous avez cru. Car celui qui demande reçoit. Particulièrement Marc, chapitre 11. À partir du verset 22. D'abord, nous prions et ensuite nous le prononçons. Nous prononçons dans la prière ce que nous avons demandé au Seigneur et les choses pour lesquelles nous avons prié. Et ensuite, nous le prononçons dans la foi ce que nous avons cru prononcer dans la foi. Cela se passe. Cela doit se passer obligatoirement. Oh, c'est ainsi que Dieu confirme sa parole en nous. Avez-vous tous tous ceux qui avaient cru, qui avaient besoin du salut de leur âme, avez-vous cru de tout votre cœur? Avez-vous invoqué le nom de l'Éternel, du Seigneur? Alors cela s'est accompli en vous, que vous êtes sauvés. Car c'est ainsi que c'est écrit. Et les choses restent valables pour toujours. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Vous qui étiez malade, avez-vous cru qu'en ta meurtrissure, je suis guéri? Vous qui avez des douleurs, avez-vous cru qu'il a porté nos douleurs? Et qui s'est chargé de nos douleurs. Croyez maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu doit faire encore pour que nous puissions croire? Dieu le Seigneur a révélé sa parole. Il a confirmé. Il a habité parmi nous et en nous. Il habite en nous, il marche en nous, et par nous, et parmi nous. et pour confirmer sa parole et toutes les promesses, les confirmer. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui, en Jésus-Christ, son Fils seul engendré par lui, qu'il a manifesté pour que nous soyons agréés en tant que fils et filles de Dieu et rétablis dans notre position originale. Il a accompli. Il a accompli. Nous ne sommes plus des étrangers et des... Non, nous sommes gens de sa maison. Là-bas, c'est notre place dans la gloire. Et nous sommes dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. Que la parole de la vérité et l'esprit de la vérité soit sur nous tous et à nous tous et sur tout son peuple dans le monde entier. Soyez bénis, bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, dans le monde entier, dans tous les pays, peuples et langues. Soyez bénis tous de la maison du Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur, notre Dieu.
Alléluia!
Louez le Seigneur! Exaltez son merveilleux nom!
Alléluia!
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 Chantons encore, tu es digne! Tu es digne! Bien-aimé Seigneur et Dieu, de tout notre cœur, je te remercie de ce que sur cette terre, tu nous as accordé un endroit dans lequel de plusieurs langues et de nations, nous pouvons nous rassembler pour écouter ta parole. Je te remercie de ce que tu as fait en sorte pour toutes les langues qui existent et qui peuvent être écoutées sur terre, toutes les langues principales. Je te remercie de ce que tu nous as accordé des frères, tu nous as accordé des traductions dans les différentes langues, malgré quelques difficultés de traduction dans les différentes langues. Bien-aimé Seigneur, tu nous as accordé le langage de l'esprit pour que nous puissions lier ce contenu spirituel avec un langage spirituel et que ton Saint-Esprit, ça s'écrit dans 1 Corinthiens 2, ton Saint-Esprit nous révèle ces choses. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Bénis tous mes frères et toutes mes sœurs qui aussi portent les difficultés du voyage et viennent malgré tout et ne regardent pas aux dépenses et sacrifient leur temps pour être ici. Bien-aimé Seigneur, que le monde entier puisse l'entendre et le voir. 1 Corinthiens 2, verset 13. que tu as des hommes qui ont reconnu le ministère que tu as accordé et qui en parle à ce que tu fais maintenant. Seigneur, dans la responsabilité directe devant toi, nous voulons exécuter ce ministère et ainsi, en ton nom, clair comme le cristal, porter ce message à l'humanité, particulièrement au peuple de Dieu. Laisse luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Je te remercie pour les réponses aux prières. Tu as exaucé nos prières, des prières, et je te demande, bien-aimé Seigneur, que personne puisse parler dans l'incrédulité. Mais quand nous parlons, nous devons toujours parler dans la foi et dire que tu as exaucé nos prières et que tu as répondu à ce que nous avons demandé. Que tu puisses ôter toute l'incrédulité et la désobéissance. Accorde la foi et l'obéissance pour l'honneur de ton nom. Et conduis-nous dans la pleine bénédiction que tu nous as accordé par la rédemption. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons encore reconnaissance pour tout, pour le messager, pour le message, pour ta parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour tout ce que tu nous as accordé et révélé. À toi, soit l'honneur. Et nous voulons ensemble louer la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et te remercions de ce que ce témoignage-là, comme c'est écrit dans 1 Jean 5, verset 7, sont aussi vrais en nous. Nous sommes sous ton sang, nous sommes dans ta parole et dans ton esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. Loué et exalté sois-tu, Seigneur et notre Dieu, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen.
Amen. Vous pouvez vous asseoir encore. J'espère que nous ne sommes plus online. Je voudrais demander tous ceux qui de Krefeld pourront aller mardi à Geislingen, qu'ils puissent demain matin, ou bien alors aujourd'hui encore, mais alors demain matin, nous le faire savoir pour que nous puissions savoir combien de voitures nous devons avoir. Encore une fois, celui qui veut aussi aller en Israël, qui puisse aussi s'enregistrer très rapidement. Et ensuite, pensez à nous qui prêchons la parole dans vos prières, pour que le Seigneur puisse nous accompagner et que sa parole et qu'il puisse nous donner d'être une bénédiction pour les autres. Tous les frères qui sont dans le ministère de Paris, d'Orléans, notre bien-aimé frère Kupfer, tous nos frères de loin et de près, nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Tous nos frères ici de la République de la Tchèque et de la Slovaquie, de l'Italie, partout, l'Autriche, la Suisse, de partout, que Dieu le Seigneur nous conduise, nous dirige et conduise tous les frères à l'unité, à l'union, car c'est seulement par l'union sous les ministères, c'est seulement par l'union parmi les frères qui sont dans le ministère que aussi l'union pourra avoir lieu parmi le peuple. Alors c'est pour cette raison que nous devons en tant qu'église prier pour les frères qui prêchent, pour que eux d'abord ils soient unis les uns avec les autres, pour que l'union de Dieu soit aussi possible parmi les frères et les sœurs dans la pratique. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Vous avez entendu le mois prochain, ce sera à Palermo, en Italie, et ensuite Roumanie, Serbie, et ensuite Zurich. Et ensuite, nous avons bientôt la fin de l'année. Et Dieu voulant, nous nous reverrons ici le premier week-end en janvier. De nouveau, le Seigneur soit avec vous tous. Nous avons aussi aujourd'hui notre sœur qui a 98 ans parmi nous. Et elle dit toujours, je voudrais ici rester jusqu'au retour du Seigneur. Alors nous devons prier, reviens bientôt Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est, oui. Nous l'appelons notre sœur Lotte. Lève-toi bien-aimée sœur. Nous la connaissons déjà depuis 35 ans. Que Dieu le Seigneur, oui, que le Seigneur te bénisse, bien sûr, oui. Elle a 98 ans. Qu'est-ce que feront tous ces jeunes qui ne viennent même pas, qui habitent là, pas loin, qui ne viennent même pas écouter la parole de Dieu? Quelle grâce de ce que Dieu accorde une fin en nous pour écouter sa parole. La sœur, elle vient de loin. Il n'a pas seulement dit, j'enverrai une fin. Il a aussi prévu la nourriture pour cette fin qu'il a accordée, pour qu'elle soit étanchée, pour qu'elle soit, pour que elle puisse.